dîner sucré salé. On n'a pas le droit de trier sucré salé.
Et bonsoir, il est 22h et bientôt une petite minute. Et ce soir, c'est une causerie astronomique. Et avant qu'on développe tout ça en compagnie de Georges, un court générique pour nous mettre dans l'ambiance.
Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Et bonsoir, dimanche 22h, la causerie cosmique ce soir. Et donc oui, avec un générique qui est né quelques années après Georges, qui est avec nous ce soir pour nous parler d'astronomie. Salut Georges.
Bonsoir.
Et autour de la table, on a aussi Jean-Yves.
Bonsoir.
À la technique qui assure toujours autant, c'est Clara.
Bonsoir.
Et Fab qui a fait l'ouverture.
Eh ben oui, voilà. Eh ben on va commencer par parler des saisons. Georges, tu voulais nous dire que plus on sera... Quoi, il faut que je dise autre truc? Ah oui, pardon, il faut que je dise, si tu veux nous écrire, lacausericanu@gmail.com. Voilà, déjà, lacausericanu@gmail.com. Surtout si tu veux réagir à ce que Georges va dire. Mmh. Et si tu veux nous laisser des petits messages ou en laisser des petits à Georges qui sera très content de vous répondre, c'est sur le blog et c'est à...
Et c'est à blogs, donc au pluriel, .radiocanu.org// pour les plus... Voilà. Et la causerie, donc, derrière. Ou sinon, vous allez sur le site internet de Radio Canu, vous y trouverez la liste de tous les blogs et au milieu de tout ça, vous trouverez la causerie.
Et si vous êtes adepte du réseau social à fond bleu, vous pouvez nous trouver et trouver un événement public pour ne jamais rater votre causerie.
C'est voilà. Ça.
Bon, ben voilà, on a tout dit. Georges, on y va.
On y va.
C'est parti.
On revient sur les saisons, comme à chaque fois. Bon, on a un petit mois de retard, c'est sans doute dû à la précession des équinoxes ou aux astrologues, je ne sais pas. On est en automne depuis un mois, l'équinoxe d'automne. Mais cependant, on s'est considérablement rapproché du soleil depuis le mois de juin. Il fait plus froid, mais on s'est rapproché du soleil et on va continuer à s'en approcher encore jusqu'à début janvier. C'est donc pas ça l'origine des saisons. C'est l'axe qui est incliné, l'axe de la Terre qui est incliné. Ce qui fait qu'au mois de juin, nous, dans l'hémisphère nord, nous sommes plus inclinés vers le soleil que l'hémisphère sud. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver chez eux. Au mois de décembre, c'est bien entendu l'inverse, 6 mois plus tard. Au mois de décembre, c'est l'hémisphère sud qui est davantage incliné vers le soleil. C'est l'été chez eux et bientôt l'hiver chez nous.
Bon. Et ben voilà, tout le monde aura tout compris. Je vais faire une toute petite précision pour les auditrices et auditeurs. Si tu entends de la musique de fond, non, nous n'en avons pas mis. Mais nous avons de nouveaux voisins qui, eux, ont une bonne musique de fond que l'on entend dans les studios. Tu nous excuseras, auditrices et auditeurs. Voilà.
Et je voulais rappeler que, toujours pareil, même si ça fait plusieurs fois qu'on en parle, ce schéma-là aussi, autour des saisons, on va essayer de le remettre sur le blog. Parce que quand on n'est pas forcément habitué à toutes ces choses-là, et ben c'est bien de se remettre un petit schéma et on vous le mettra, comme d'habitude. Voilà.
Et ben avant de démarrer l'émission, Georges, tu voulais rendre un hommage à quelqu'un qui t'était très cher.
Absolument.
Donc c'est l'occasion, vas-y.
Absolument. Il s'appelait Guy, il était notre président du club astronomique de Chaponnet. Il nous a quittés au mois de septembre. Il avait 74 ans, il était notre président, mais il était surtout notre ami. C'était un astronome remarquable, c'était un bricoleur remarquable. Il a laissé énormément de bricolage en tout genre au local. Il a laissé énormément plus de choses aussi dans nos cœurs. Guy, ça faisait 25 ans que j'observais le ciel avec lui. Donc Guy, j'aimerais te dédier cette émission.
Et ben voilà. Qui est fait.
Voilà, c'est ça.
On précise peut-être le cadre de l'émission.
Ouais, ce soir, et alors, ce soir, mais pas que ce soir, on va parler des personnages importants pour l'astronomie. Et donc, on va faire ça vraiment en partant au plus loin de nous pour revenir petit à petit vers
nous.
Vers nous. Ouais, pardon, voilà. C'est un peu un doublon. Et ben justement, on peut peut-être se poser cette question-là en commençant. C'est quand que ça a commencé, les gens qui observent, qui lèvent la tête vers le ciel comme ça pour regarder tout ça ?
Je vais répondre depuis tout le temps. En tout cas, depuis l'apparition de l'être humain sur la Terre. Imaginez-vous, il y a 500 000 ans, par exemple, les hommes préhistoriques voyaient le ciel, voyaient cette lune qui était changeante, voyaient la course des étoiles. Et ils devaient se poser énormément de questions quant aux phénomènes comme les éclipses, etc., les étoiles filantes. Ça devait être tour à tour effrayant, fascinant, beau. Je dirais, j'ai envie de dire que l'astronomie a commencé avec l'humanité. Mais malheureusement, les écrits que l'on retrouve les plus anciens sont très très récents. Il faut remonter au XIIe siècle avant notre ère. C'est, par rapport aux êtres préhistoriques, c'est hier, quoi. C'est très très récent. Et les écrits les plus vieux remontent à la Mésopotamie, au Moyen-Orient, et notamment la ville célèbre de Babylone. Des stèles qui représentent le ciel. Les Babyloniens ont étudié le cours de la Lune, ils ont étudié la trajectoire des planètes. Bon, effectivement, pour en faire des présages, c'est donc d'abord, on l'a déjà dit, c'est l'astrologie qui est née. Ben, c'est assez incroyable, mais c'est de ces pratiques-là que va naître l'astronomie.
Et alors, juste quand même pour situer, Babylone, c'est un petit peu à côté d'où se trouve aujourd'hui Bagdad.
C'est l'Irak actuel.
C'est l'Irak actuel et c'est un peu au-dessus de Bagdad. Pour se rendre compte du bassin où c'était.
Tout à fait. Il faudra attendre encore un petit peu pour que l'astronomie se dégage des superstitions. Il faudra attendre l'Asie mineure, plusieurs siècles après, moins 600 avant Jésus-Christ. Là, nous sommes à Milet, c'est une cité grecque sur la mer Égée, l'actuelle côte ouest de la Turquie. Milet est un foyer de culture extraordinaire au VIe siècle avant notre ère. Il y a des philosophes, des mathématiciens, des géomètres, on est très fort en sciences naturelles et en astronomie. Je dirais que l'astronomie en tant que telle est née à Milet au VIe siècle avant notre ère.
Donc 600 ans avant Jésus-Christ, comme on dit pour ceux qui croient qu'il a existé.
2600 ans avant nous, quoi. Voilà, avant aujourd'hui.
C'est cela. Mais c'est intéressant. Alors, du coup, ça veut dire que dans cette ville, il y avait un croisement de plein d'arts différents, enfin d'arts de sciences, pardon, différentes, et que donc l'astronomie, elle apparaît là pour toi. Et il y a un personnage en particulier qui va la porter un peu cette astronomie, on va dire moderne, en fait, détachée de toutes ces peurs et croyances.
Tout à fait. Mais parlons d'abord de deux personnages qui sont bien connus, qui ont été pendant des générations le cauchemar des collégiens. Hein, c'est Thalès et Pythagore, qui étaient à Milet.
C'est là à cause d'eux qu'on s'emmerde avec l'histoire des Anglais et tout, quoi.
Tout à fait. Le fameux théorème de Pythagore. Mais pour revenir à l'astronomie, c'est quelqu'un qui s'appelle Parménide, qui est le premier à dire que la Terre est ronde, quand même, au VIe siècle avant notre ère. Mmh. C'est quand même extraordinaire, parce que même actuellement, c'est pas évident pour tout le monde encore, au XXIe siècle.
Il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate.
Ouais, c'est fou.
Ça fait flipper, ouais.
Parménide.
Et donc lui, il va affirmer que la Terre est ronde.
Oui, il va plus loin, il affirme que les astres se sont des sphères en suspension dans l'espace. Ben voyons. Mais malheureusement, la Terre, pour Parménide, reste immobile au centre. Le tout tourne autour de la Terre. Et j'irais même pour le grand Aristote, hein, au IVe siècle de notre ère, c'est-à-dire 200 ans plus tard. Mais l'envie de décrire l'univers est là. Mmh. Elle est là.
Alors, quand tu dis que pour eux, tout tourne autour de la Terre, ça apporte un nom, tu nous l'as donné à la prépa.
Le géocentrisme,
c'est joli.
Théorie géocentrique. Géo pour la Terre, centrique au centre.
Et donc pour les penseurs de l'époque, ça veut dire que tout l'univers, c'est-à-dire ce que tu décrivais dans les précédentes émissions, c'est-à-dire des milliards de milliards d'étoiles, et le centre c'était la Terre, et
c'est
tout
ça.
Tournait autour de la Terre.
Autour de la Terre, la sphère céleste tourne autour de la Terre qui elle est parfaitement immobile, bien entendu.
Ah oui, c'était un petit peu un ego surdimensionné quand même, je veux dire, nous on bouge pas.
Et alors je suis peut-être naïf ou je sais pas, mais à cette période-là, ils avaient des outils ou c'était uniquement de l'observation, il y avait du calcul, c'était...
Non, c'était de l'observation. Ouais, il y avait assez peu d'outils pour mesurer les angles, c'était de l'observation. Ça viendra plus tard, l'outillage. Mmh. C'était de l'observation. Mais tout de même, quelques années après, un certain Héraclide Dupont...
Héraclide Dupont.
Hein, est le premier à dire que la Terre tourne sur elle-même. Et c'est cela qui explique la succession du jour et de la nuit et la rotation de la sphère céleste.
Et là, on est en quelle période? Moins 400 aussi, à peu près?
Tout à fait.
D'accord. Donc il faut quand même se rendre compte qu'on n'a pas attendu les sciences modernes pour savoir que la Terre tournait. C'est ça qui est intéressant.
Oui, oui, oui.
De se dire que des gens, par simple observation empirique, en fait, ont déterminé que la Terre tournait.
Donc Héraclide, il continue ses observations, il continue à observer Mercure et Vénus, notamment, parce qu'elles sont bien bien visibles dans le ciel. Et il en conclut que Mercure et Vénus, elles, tournent autour du Soleil.
Elles?
Oui, elles.
Mais pas nous.
Au 4e siècle avant notre ère.
Mais lui, il pense toujours que la Terre, elle, est au centre.
Absolument.
Hein, c'est ça. D'accord.
Mais on y est presque, quoi. Ouais. On y est presque.
Ouais.
Il faudra attendre encore un siècle supplémentaire, le 3e siècle, moins 300, et la lumière viendra de l'île de Samos. Alors Samos, c'est une île grecque de la mer Égée. C'est dans le coin. Hein.
C'est
une autre cité grecque.
Je pars là.
Il s'appelle Aristarque. Et pour Aristarque, j'allais dire enfin, le soleil est au centre. Et toutes les planètes tournent autour du soleil, y compris la Terre. On y est. Au 3e siècle de notre ère, on y est.
Donc, ce qui est intéressant vraiment, c'est moins 300 avant le truc qui est né, soi-disant, là. On a un gars qui, sur une île, hein, pour faire simple, se dit en fait, tout tourne autour du Soleil. Et là, il est quoi? Il est lapidé, brûlé, écartelé? Ou les gens se disent,
non,
ah, c'est pas bête comme
ça
idée.
Viendra plus tard, ce genre de choses. Pour l'instant, ils sont encore à peu près tranquilles.
Mais donc là, c'est accepté en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une période où la science, elle est acceptée et qu'on dit, bah oui, ta théorie, elle est pas bête, quoi.
Oui, oui, oui. Alors Aristarque, il va assez peu quand même diffuser sa théorie. Bah, il a quelques initiés, ça lui dit pas beaucoup de trop en parler. Il est assez modeste. Les gens autour sont au courant de ses théories, ils sont enthousiasmés, ils sont étonnés. Donc c'est la première théorie héliocentrique de l'univers. Ce n'est pas la Terre qui est au centre, c'est le Soleil, héliosoleil-centrique.
Moi j'ai une toute petite question, mais qui va peut-être paraître très très bête, hein, mais on sait qu'il y avait cette concentration, parce que les cités grecques avaient par habitude de mettre les sciences, et y compris la philosophie aussi, en avant dans leur mode d'épanouissement, c'est-à-dire que les Grecs étaient très axés là-dessus. Mais c'est d'imaginer qu'en fait, dans ce petit coin, en 400 ans à peine, on a fait des bonds de géants dans l'astronomie, en partant au final des tablettes de Babylone, quoi. Donc en gros, c'est qu'il y a une continuité, c'est-à-dire que c'est... Enfin, je ne sais pas si je me trompe peut-être, mais peut-être qu'on part de Babylone et les gens voient ce que les Babyloniens avaient fait, et puis on réfléchit dessus, et puis petit à petit on se dit « bah non, en fait, c'est pas ça, c'est plutôt ça », et ainsi de suite. Ou est-ce que c'était des découvertes chacun de son côté?
Non, il y avait énormément d'interactions entre les différentes écoles. Hein, c'est vraiment l'époque des grands penseurs grecs, une époque foisonnante, qu'on pourrait regretter parfois, parce que même de nos jours, on est encore... sujet à l'obscurantisme, même au XXIe siècle. Une époque donc un peu révolue. Alors l'idée quand même du soleil au centre ne s'est pas beaucoup répandue, malheureusement, j'allais dire. Hein. Mais on y est, quoi. Pour que la vérité revienne à nouveau, il faudra ensuite attendre 17 siècles.
Ah ouais.
Oui, oui. Parce que derrière Aristarque, la Terre est revenue au centre.
D'accord.
De l'univers.
Oui, comme il n'a pas diffusé sa pensée, Du coup, elle est restée...
Bah, forcément, quel dommage. Il faudra attendre 17 siècles ensuite. 17 siècles, 1700 ans.
Eh bien, on va en reparler après une petite coupure musicale.
Faisons cela.
Allez.
Enfin, bientôt, vous allez entendre un morceau de musique. Veuillez patienter.
Et vous êtes de retour à la causerie. Et on vient de s'écouter Un avion de Carl Biscuit.
Oui, c'est ça. C'est un titre hommage aux morts de Columbia, parce que vous savez que la fusée a explosé en vol. Voilà, il avait écrit ce titre. Et ce que vous entendez à la fin, c'est Houston qui essayait de prendre contact avec l'avion, d'où le titre. Et en fait, il a attendu longtemps, malheureusement. Voilà.
Ok. Eh bien, alors, avant cette pause musicale, justement, nous en étions à moins 300 avant notre ère, avec Harry Stark, si je me trompe. On a parlé de d'héliocentrisme, c'est ça ?
Oui, le soleil au centre.
Le soleil au centre. Et puis, le bon suivant, donc, on est en moins 200, c'est bien ça ?
On est au deuxième siècle. Hein. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la Terre est malheureusement revenue au centre de l'univers, même si c'est pas sa place.
Deuxième siècle avant ou après
Avant notre ère.
Avant.
Et on va aller à la bibliothèque d'Alexandrie. Son directeur s'appelle Ératosthène. Alexandrie, hein,
Alexandra.
Sur la côte de l'Égypte actuelle, qui est une cité grecque à l'époque. Ératosthène, il va non moins mesurer la circonférence de la Terre, tout simplement. On en a déjà parlé dans cette émission.
Oui, tout à fait, avec l'aplomb du Soleil et l'angle.
Alors, il n'est pas parti en dos de chameau pour faire le tour complet.
C'est un peu long.
Ensuite mesurer, c'est un peu long. Donc, Ératosthène, il se trouve à Sienne le 21 juin. Et Sienne, c'est sur le tropique du Cancer. Hein, c'est beaucoup plus au sud, c'est à près de 800 km au sud d'Alexandrie, mais c'est également au bord du Nil. Mm-hmm. Le Nil, hein, pas une île.
Mm-hmm. Oui.
Le Nil. Et le 21 juin, il se rend compte que le soleil éclaire le fond d'un puits. Ça veut donc dire que le soleil est pile poil à la verticale, à midi, le 21 juin. L'année suivante, il est près de chez lui, à Alexandrie, et il se repointe sous le soleil à midi, le 21 juin de l'année suivante. Et il mesure l'angle que fait le soleil avec la verticale. Il trouve 7,2 degrés. Alors, à vos calculatrices, 7,2 degrés, c'est un cinquantième du cercle. Un cinquantième d'un tour complet.
Rappelons que le tour complet fait 360 degrés.
C'est ça. Donc, la distance Sienne-Alexandrie, pour lui, vaut un cinquantième de la circonférence de la Terre. Reste plus qu'à mesurer la distance Sienne-Alexandrie.
Oui, parce que lui, il se base sur le fait qu'avant lui, quelqu'un a dit « la Terre est ronde ». Donc, il sait qu'on est sur une sphère.
Donc, au deuxième siècle, elle est ronde, elle tourne sur elle-même. Ouais. Elle est juste au centre, mais bon, ça va durer un moment, comme on l'a vu.
Et il tombe juste ?
Et il tombe très très près de la valeur réelle. À l'époque, on parle de stades, hein, et non de kilomètres. Mmh. Et Sienne-Alexandrie, à dos de chameau, ça mesure 5000 stades, pardon. Ce qui correspond à peu près à 788 kilomètres. Donc 5000 stades multipliés par 50, hein, c'est 50 fois la circonférence, c'est 50 fois la distance Sienne-Alexandrie, 5000 stades multipliés par 50. Il trouve la circonférence de la Terre égale à 250 000 stades, ce qui correspond à 39 400 km. Il est très très proche de la réalité, puisque la circonférence de la Terre à l'équateur, c'est 40 000 km.
Ah, c'est vraiment très très proche, oui.
Oui, à 600 km près.
Alors, pour ceux qui se demanderaient comment ils savaient que ça faisait cette distance-là, c'est qu'on utilisait, alors je ne sais plus, les dromadaires ou les chameaux, je ne sais plus lequel des deux, qui a toujours le même pas. Donc en fait, pour une distance, vous comptiez le nombre de pas que faisait le dromadaire ou le chameau. Voilà. Vous imaginez, ça a dû prendre un peu de temps quand même.
Non, en fait, je l'avais aussi raconté ça. Ératosthène a fait deux erreurs qui se sont compensées. Ça l'a arrangé. Mais de toute façon, même s'il avait subsisté une des deux erreurs, il n'aurait pas été extrêmement loin non plus. Il s'est un petit peu trompé, bien sûr, sur la distance Sienne-Alexandrie. Et il s'est un petit peu trompé aussi parce qu'il n'était pas pile poil au sud d'Alexandrie. Sienne est un petit peu plus à l'est sur le Nil, certes, mais le Nil part vers l'est.
Il n'est pas en ligne droite.
En filant vers le sud. Pour que ça soit vraiment exact, il aurait fallu être sur le méridien d'Alexandrie, pile poil au sud d'Alexandrie. Les deux erreurs se compensent et il annonce 39 400 km.
Donc en 200 avant notre ère, on sait que la Terre est ronde, qu'elle tourne sur elle-même et on connaît sa
dimension. Or, s'il n'avait pas fait cette erreur, il serait tombé sur 39 000, ce qui restait...
Oui, on ne va pas lui en vouloir, quoi.
Remarquable. Remarquable. Au deuxième siècle de notre ère, 200 ans avant Jésus-Christ. Mm-hmm. Quand même pas mal.
Quand même, oui.
Et c'est donc les Grecs qui ont le fait le plus avancer l'astronomie à cette période-là.
Oui, c'est même dément. Hein, dément.
Enfin, les Grecs et les pays du Levant, en fait. Parce que quand on regarde de l'Empire grec, il y avait dedans... Il y avait une partie de l'Iran, il y avait... Enfin, voilà,
c'est ça, hein. Au début de notre ère, par exemple, hein, les connaissances sont fantastiques. La somme de connaissances, absolument fantastique. Tellement même qu'un siècle plus tard, au premier siècle de notre ère, un astronome grec, Claude Ptolémée, décide de faire un recueil de toutes les connaissances qu'on a à l'époque. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais il lui a fallu 13 volumes pour le faire. Énorme. 13 gros volumes, c'est énorme. Ce recueil s'appelle l'Almageste, Almageste pour magistral, majestueux. Mmh. 13 volumes, dont plusieurs volumes consacrés à l'astronomie, d'autres volumes pour les mathématiques, d'autres volumes pour les sciences naturelles, pour la médecine également. Il a voulu faire la somme... quasi exhaustive, de toutes les connaissances de l'époque. C'est un ouvrage absolument remarquable, l'Almageste, au 1er siècle.
C'est vraiment une période foisonnante, quoi, au niveau des sciences. Et de la philosophie aussi, pour l'époque.
Mais bon, ben, comme vous l'avez deviné, l'Almageste, il subsiste dedans une erreur. La Terre reste au centre, malheureusement. D'accord, elle tourne sur elle-même, mais elle est au centre. Et Ptolémée, bien sûr, qui avait étudié les trajectoires précises des planètes, voit bien que ça ne colle pas avec la Terre au centre. Alors il imagine un système extrêmement compliqué, les épicycles. Alors qu'est-ce que c'est, les épicycles ? Ce sont des espèces de cercles qui, eux, tournent autour de la Terre, mais chaque planète tourne autour de ces cercles. Et comme ça, il arrive à expliquer grosso modo, les trajectoires bizarres des planètes. Hein, dans le ciel, en réalité, là, on fait une petite parenthèse là-dessus, à certains endroits dans le ciel, les planètes semblent régresser, repartir dans l'autre sens. C'est parce que la Terre les dépasse à ce moment-là, et c'est vraiment une illusion, c'est la combinaison des deux mouvements, de la Terre et de la planète. Mais si les planètes tournent tout simplement autour de la Terre, ça ne peut pas s'expliquer, effectivement. Il fallait inventer les épicycles pour expliquer ça.
Et en fait, c'est étonnant parce que du coup, il fait la somme des connaissances, sauf celle qui venait de Samos, qui n'était pas sortie de son île.
Elle n'est pas parvenue à l'Almageste. C'est quand même
dommage.
Extrêmement dommage. Extrêmement dommage. Il n'en reste pas moins que c'est un ouvrage absolument remarquable. Un des plus grands travaux de l'Antiquité.
Mais surtout, il était à Alexandrie, lui, c'est ça aussi ? Oui, donc c'était aussi là-bas qu'il y avait la grande bibliothèque, parce que c'était l'envie à Alexandrie de recueillir toutes les connaissances du monde. C'était une drôle d'idée, mais... mais voilà, tout dans un seul point, c'est ici que ça se passe.
Et ouais. Lui, son Almageste, il va le répandre, lui. Il ne va pas faire comme Aristarque.
Bah, vu le boulot qu'il a fait.
Tellement même qu'il se répand dans tout le monde civilisé. Civilisé, entre guillemets. Dans le monde grec, bien entendu. Dans le monde arabe, dans le monde chrétien. L'Almageste se répand absolument partout.
Il sera traduit, d'ailleurs, dans plusieurs langues.
Plus tard. Il sera traduit en arabe. Puis beaucoup plus tard encore traduit en latin, on verra ça.
D'accord. Oui.
Donc on en est là. Mm-hmm. Et après, quand arrive le 3e siècle, après. Après, c'est malheureusement l'époque des invasions barbares.
Oui, ce que les Grecs et les Romains ont appelé invasion barbare. Mm. C'est de leur point de vue.
Mais toujours est-il que les connaissances se perdent assez rapidement, finalement, en quelques décennies. Oui, on ne fait plus de science, les connaissances se perdent. Ça correspond aussi à la chute de l'Empire romain,
ouais,
qui a précipité tout ça. L'école d'Alexandrie subsiste encore, quelque temps. Mais au IVe siècle, l'école d'Alexandrie n'a plus que quelques représentants. Et la dernière représentante, c'est une femme, s'appelait Hypatie. On l'a fait ? Hypatie, personne ne l'a revue. Merci.
Allez, bon, ok, on l'a fait. Hein, alors... Donc, surtout qu'elle a pas, ouais, eu un destin très joyeux, la pauvre Hypatie.
Non, Hypatie a été lapidée. Lapidée en l'an 450.
Et pour quelle raison ? Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus, mais c'était dû au savoir qu'elle avait.
On ne se souciait plus du tout de science.
D'accord. Donc celles et ceux qui pratiquaient les sciences étaient...
On disait que c'était des nuisibles à la société, en fait. Il y avait une sorte d'anti-intellectualisme, mais très poussé, c'est-à-dire... Ouais. Voilà. Et surtout, c'était les représentants d'une société hiérarchisée, et ils étaient un peu au sommet de la pyramide, parce qu'ils étaient détenteurs de postes de... Enfin, vus comme étant clés, alors qu'en réalité, ils étaient au sommet de la pyramide par leur connaissance et pas par leur pouvoir sur la cité. Enfin, quand vous envahissez une cité, faire la différence, c'est un peu compliqué. Voilà.
D'accord.
Donc vous tuez tout ce qui ressemble à un chef.
D'accord.
Donc, enfin, à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on ferait plus ça.
Hein. Ouais.
Ça va, je déconne.
Et quand arrive le 5e siècle, eh bien, on est bien obligé de dire que la science est morte. Elle est morte. Hein, plus aucun progrès ne sera fait pendant des siècles ensuite. Plus aucun.
En tout cas, en astronomie.
En astronomie.
Il y a deux, trois sciences qui ont encore eu quelques petits trucs pendant le Moyen-Âge, mais assez peu. Quoi.
Oui, oui, oui. L'astronomie qui, d'ailleurs, dans d'autres lieux, comme en Asie ou dans le monde arabe, subsiste. On retrouve des écrits qui datent de cette époque. Mais en Occident, plus rien.
Et en Asie, ils ont aussi l'idée que la Terre est au centre ?
Oui.
D'accord, donc c'est vraiment un truc qui est dans la tête des humains, ça.
C'est plus fort que l'être humain.
C'est ça.
Il faut absolument qu'on soit situé au centre, voyons.
En forme d'égocentrisme.
Donc, dans le monde arabe, c'était au centre, dans le monde grec au centre, et dans l'Asie au centre aussi. Donc, personne ne se dit, en fait, on tourne autour du soleil.
Non, il faudra vraiment encore attendre plusieurs siècles.
Est-ce qu'on passe un titre de musique et on se retrouve après pour continuer notre voyage dans le temps ? Allons-y !
Thank you.
Et vous êtes bien dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu, comme tous les dimanches de 22 à 23 heures. Et c'était un titre issu de la bande originale du film Oblivion, et ça s'appelle Waking Up, et c'est écrit par M83 ou M83, je ne sais pas comment qui s'appelle.
Je ne sais pas.
Moi non plus.
Ok, bon. Et ben, bon, en tout cas,
c'est M83, quoi.
Voilà.
Frère, oui, mais voilà, quoi.
Et Georges, avant la pause, donc on s'est quitté sur... On disait qu'on allait arriver sur une période très sombre où il n'y avait plus d'avancées dans la science pendant 10 siècles. Mais on va revenir un tout petit peu en arrière parce que tu nous parlais d'hypathie. Ne refais pas ton jeu de mots. On note quand même qu'il y a assez peu de femmes globalement qui sont repérées comme étant ayant fait de la science. Mmh. Mais alors, est-ce qu'elles n'en faisaient pas ? Et la preuve que non, parce qu'hypathie existait. Ou est-ce que c'est parce que les mecs, systématiquement, ils oublient un petit peu de les citer ?
Eh bien, c'est tout à fait ça. Soit on oublie de les citer, soit on s'approprie leurs propres découvertes. Il faudra quand même attendre le 19e siècle, vous vous rendez compte, pour qu'enfin on voit réapparaître des femmes dans les écrits scientifiques. Le 19e.
Ouais, c'est quelque chose d'hallucinant quand même. Mmh. Ben voilà.
Ouais, c'est ce qui s'est passé dans plein de domaines.
Oui, tout à fait. Ouais, mais...
C'est-à-dire la réappropriation, le vol des connaissances, des découvertes que des femmes ont faites.
Ouais, mais attention, ça n'était pas systématique.
Non, mais c'était fréquent.
Mais c'était une pratique courante.
Voilà, dirons-nous.
Malheureusement. Et donc, du coup, on va continuer. Donc, on va sauter, en fait, 10 siècles, là.
Oui, oui, on s'est quitté tout à l'heure avec une astronomie qui était bien mal. Hein. Bien, bien mal. Au 11e siècle, il y a énormément de traductions en latin des traductions arabes. Énormément, énormément. Et notamment, Gérard Cremon entreprend de traduire en latin l'Almageste. La fameuse Almageste de Ptolémée, les 13 volumes scientifiques.
Qui étaient déjà en grec à l'époque et en latin, c'est dommage qu'il ait eu à le retraduire. Mais il a dû le refaire.
Et du coup, l'Almageste se répand à nouveau, tellement même que l'Église se l'approprie. Et voilà.
Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de...
L'Église se l'approprie et en fait même un dogme, un ouvrage sacré, un ouvrage que quiconque ne peut contredire sous peine d'être accusé d'hérésie. Et hérésie, c'est la naissance de l'Inquisition.
Oui, c'est ça, c'est à la même période.
Les cachots et les tribunaux de l'Inquisition, c'était pas sympa.
Non, ce que je voulais qu'on précise, c'est la notion de remise en question. En fait, le propre de la science et tout ça, c'est toujours quand même une remise en question des savoirs. Alors, c'est pas dire totalement, mais
si totalement.
Si totalement, ok. Ouais. Et donc, donc là, en fait, ça veut dire que au-delà même de dire en fait non, je sais pas, la Terre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, c'est juste si on met un tout petit peu en question avec certaines données. En fait, on est un hérétique, quoi.
Oui, tout à fait. Parce que la Terre est au centre, hein, pour les catholiques. Dieu n'a pu que la
mettre au milieu, bien évidemment.
Voilà. Il est impossible de contredire cela, cette vérité divine.
Oui, ce qui tue là aussi, finalement, la recherche.
Enfin, clairement, oui.
Ouais.
Et il faut, et tu le disais, c'est qu'en plus, l'Almagest va vachement dans le sens de ce qu'on a appelé le renouveau chrétien, c'est-à-dire l'arrivée de l'Inquisition, c'était ça. Quel renouveau. Et donc, en fait, c'était l'idée de dire que finalement, ça corroborait la Bible à 80%. Mmh. Parce que la Terre était plus plate, tant pis, on va faire avec, mais elle est quand même au centre, tout tourne autour d'elle, le soleil est à ses ordres, donc c'est à peu près bon. Hein,
c'est ça.
Voilà,
c'est ça. Et ça va être un frein monumental pour l'avancée des connaissances. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'obscurantisme.
Oui, c'est le mot. Mm-hmm. Et du coup, dans cette période-là, est-ce qu'il y a quand même des gens qui vont tenter, qui vont essayer quand même d'aller à l'encontre de cette puissance
Il faudra attendre longtemps. Quelques siècles encore. Quelques siècles, ça nous emmène au XVIe siècle, carrément.
Donc il y a 500 ans
c'est ça.
D'obscurantisme total encore qui suivent la redécouverte de l'Almageste.
Alors c'est un petit progrès quand même par rapport au premier millénaire, mais...
Oui.
En fait, c'est un retour en... Enfin, c'est même pas un retour en arrière, c'est-à-dire qu'en fait, on a entre le premier siècle après notre ère. Et le 15e siècle, en fait, on reste sur des connaissances qui ont 1500 ans, quoi. Comme si on n'avait pas pu avancer ou s'interroger. C'était quand même impressionnant de se dire qu'on a bloqué à ce point-là.
C'est incroyable. Voilà. Là, 1500, nous sommes 17 siècles après Aristarque. Mm-hmm. Vous vous souvenez ? Mm-hmm. Il a fallu attendre 17 siècles. On y est. On est en Pologne. Il s'appelle Nicolaus Copernicus, Nicolas Copernic. En Pologne, en 1500, c'est un chamoine, c'est un médecin et c'est un astronome. Copernic observe inlassablement le ciel. Il observe la course des planètes, principalement. Il s'intéresse beaucoup à la trajectoire de Mars. Il comprend, en quelques mois, c'est quand même assez rapide, il comprend que c'est impossible que la Terre soit au centre. Et les épicycles de Ptolémée n'arrivent pas à expliquer la trajectoire extrêmement bizarre de Mars. C'est impossible que la Terre soit au centre. Et pour lui, c'est l'évidence, c'est bien le Soleil qui est au centre du système solaire. Et Aristarque avait raison 1700 ans plus tôt. Nicolas Copernic.
On a perdu un peu de temps. c'est pour ça en fait qu'on parle de révolution copernicienne.
Absolument, on a perdu 1700 ans.
Ouais. Et c'est le retour en fait à l'héliocentrisme, avec autant de temps perdu, quoi. C'est impressionnant. Et alors Copernic, Copernicus de son vrai nom, il va se faire brûler, lapider, parce qu'on est encore dans l'Inquisition quand même.
Non. Donc, il est prudent, Nicolas Copernic.
Surtout, il était chamoine, donc il savait comment ça se passait.
Il est prudent. Donc son ouvrage, ça, je ne le ferai pas en polonais, j'en serais bien incapable.
Non.
Ça s'appelle « Des révolutions des sphères célestes ». Il l'achève 30 ans plus tard, en 1530. Il ne le publie pas, pensez donc. Ses initiés insistent, autour de lui on insiste, parce que pour eux c'est absolument extraordinaire, ça paraît évident dans l'ouvrage de Copernic. Et en fait, il mettra beaucoup de temps à le publier, parce que son ouvrage est finalement publié en 1543, très très peu de temps avant sa mort.
D'accord.
Donc Copernic ne fut jamais persécuté par l'Église.
Pour cause.
Pour cause, oui. Malheureusement, tous n'ont pas eu cette chance.
On avait parlé ici d'un curé athée qui s'appelait Jean Mélier, qui a fait exactement la même chose pour éviter de perdre la vie. Ça s'entend et ça se comprend. On était dans une période où il fallait assez peu de choses quand même pour perdre la vie. Donc, voilà.
Oui, non, mais je pense qu'on n'arrive pas des fois à s'imaginer cette société-là, où effectivement la remise en question des principes édictés comme des règles qu'on ne remet pas en question, c'était violent. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte des fois, l'obscurantisme, ce que ça veut dire.
Et après Copernic, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont reprendre ses travaux, du coup,
tout
à fait, publié ?
Tout à fait. Un autre prêtre, Giordano Bruno, au XVIe siècle, 1573. Giordano Bruno, il naît 5 ans après la mort de Copernic. Donc il vient juste après. C'est un esprit brillant qui fait des études de théologie. Il est ordonné prêtre, effectivement. C'est un défenseur convaincu de l'héliocentrisme de Copernic. Il le diffuse, il insiste, il le répand partout. Et c'est là que vont commencer ses ennuis.
Parce que lui, je crois qu'il n'a pas aussi bien fini que Copernic.
Il est excommunié.
Ça démarre mal pour lui.
Il est accusé d'hérésie. On veut l'arrêter, mais il réussit à s'enfuir. Il s'enfuit à Genève, à Toulouse, à Paris et à Londres. À Londres, où il publie encore des ouvrages sur l'héliocentrisme. Et finalement, il est dénoncé et il est arrêté par l'Inquisition en 1592, malheureusement. Il est arrêté. Il est arrêté, des interrogatoires, 8 ans de cachot, et il est finalement condamné à mort. Et Giordano Bruno, malheureusement, est brûlé vif à Rome en 1600.
Là, on arrive mieux à voir l'époque.
Oui, c'est ça.
D'un coup, là, on mesure bien que simplement pour avoir dit une évidence, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil, vous finissiez au bûcher. C'est sympatoche.
Vous comprenez maintenant la prudence de Copernic.
Ah, tout à fait.
C'est ça.
On ne peut que la comprendre. Et moi, j'avais. Donc, du coup, quand même, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que des livres commencent à exister. Donc ces connaissances-là commencent à, malgré tout, malgré le veto mis par l'Église, à se diffuser.
Alors l'Église en a connaissance, mais elle insiste pour qu'on présente cela comme des idées de travail, absolument pas le reflet de la réalité.
Ça nous rappelle le design intelligent aujourd'hui, vous savez, où l'Église dit qu'il ne faut pas parler de la théorie de l'évolution, il faut dire que c'est une idée de travail et qu'à côté, il y a le design intelligent de Dieu. Vous voyez, c'est le même truc. Ils n'ont pas tellement changé, en fait. Hein.
Non. Eh non. Donc, au moment de la disparition de Giordano Bruno, il y a deux personnages essentiels de l'histoire de l'astronomie qui ont déjà, eux, une trentaine d'années, à deux endroits différents du monde. En Allemagne, Johann Kepler, et en Italie, le très célèbre Galileo Galilei. Galilée.
Ce que je propose, c'est qu'on en cause après un petit titre de musique. Allez, on fait ça.
Et vous êtes de retour dans la causerie le dimanche 22-23h et ça a coupé, je sais pas pourquoi.
Du coup, j'ai acheté la fin de la chanson.
Du coup, ah, c'est ça.
Voilà, j'ai un chocobon dans la bouche et je suis vraiment désolé.
Bien. Alors, on vient de s'écouter donc Divenire, c'est ça, c'est ça.
De Ludovico Einaudi.
C'est ben voilà.
Mais j'ai avalé entre temps, ça va mieux.
C'est du piano et c'est magnifique.
C'est bon, t'as avalé, chérie. Alors. Avant cette pause musicale, nous en étions. Tu commençais à nous parler de deux personnages, un en Allemagne qui s'appelait Kepler et l'autre c'était en Italie et c'était un Galilée.
C'est cela. C'est causerie astronomique ce soir.
Ah bah oui.
J'ai oublié de le dire.
C'est vrai.
Alors Kepler, lui, est en Allemagne. Il est relativement à l'abri, lui, de l'Inquisition à cette époque. Alors c'est bien entendu un fervent défenseur de l'héliocentrisme de Copernic. Alors Kepler a rencontré un fabricant génial d'instruments de mesure dans le ciel là, qui s'appelle Tycho Brahe à l'époque. Tycho Brahe qui demande à Kepler de calculer l'orbite de Mars. Nous ne comprenons pas dans le ciel la trajectoire extrêmement bizarre de Mars. Et Kepler entreprend donc ses mesures pendant des mois, pendant des années. Des anomalies de Mars qu'avait déjà d'abord détecté Copernic lui-même. Ça ne collait pas, même avec son système héliocentrique. Et en mesurant précisément, Mars ne colle vraiment pas. Il se rend même compte que pour d'autres planètes, il y a moins d'écart, mais ça ne colle pas tellement non plus.
Parce qu'il pensait que tout tournait à la même vitesse autour du Soleil.
Il pensait...
En cercle.
Copernic pensait jusque-là que les planètes tournaient autour du Soleil selon des cercles.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et en fait, non.
Kepler comprend que ce ne sont pas des cercles, mais des ellipses dont le Soleil occupe un des foyers. Toutes les planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil selon des ellipses et non des cercles. Mm-hmm. Ça, D'où le calage dans les calculs de Copernic.
Et ça, c'est la grande découverte de Kepler.
Absolument.
Et est-ce qu'on se sert encore de ce que Kepler a découvert ?
Oui, Kepler édite ces trois lois qui sont encore utilisées de nos jours, au XXIe siècle, pour la satellisation. Extraordinaire.
Ouais.
On est au XVIIe siècle.
Et tout ça avec des instruments faits par, j'ai perdu
son nom. Tycho Brahe.
Alors c'était quoi ? C'était des sextants, des choses pour mesurer
Absolument.
Les angles,
ouais.
Et le plus précis possible.
Des quarts de cercle gradués de plusieurs mètres de haut, des instruments extrêmement puissants.
Ah oui, carrément.
Précis. Il était le meilleur constructeur d'instruments du XVIIe siècle.
D'accord.
Et dans le même temps, on a donc Galilée.
Oui, c'est assez parallèle. On est cette fois-ci en Italie.
Alors lui, il est un peu moins protégé de l'Église, a priori, enfin, l'Église romaine.
Galilée, un jour de 1609, il se procure une longue vue. Alors, il n'a pas inventé la longue vue, hein, c'est une idée reçue, c'est une invention hollandaise, mais il s'en procure une. Alors d'abord, il fait comme tous ceux qui en ont utilisé pour la première fois, il la pointe sur les églises au loin, il les voit plus près, et puis il pointe sa longue vue vers le ciel. Et là, c'est la stupeur. La Lune a des cratères, il voit des étoiles que personne n'a jamais vues dans sa lunette qui pourtant est de très mauvaise qualité optique. Hein. Il voit le diamètre des planètes, ce sont bien des sphères, la première fois qu'on voit ça. Il voit des taches sur le Soleil. Donc il perfectionne la longue vue, hein. Il commence à construire des lunettes. Alors il faut savoir qu'il va en construire une multitude, Galilée, de lunettes dans sa vie. Une soixantaine carrément. Toutes de qualité plus ou moins valable, hein. Certaines plus que d'autres. oui, je dis ça parce que le plus basique instrument d'amateur de nos jours est bien plus perfectionné optiquement que les lunettes qu'utilisait Galilée. Et cependant, avec ses lunettes, il découvre les satellites de Jupiter, par exemple. On les appelle encore aujourd'hui les satellites galiléens.
En fait, lui, il voit des points flous, au final. Autour de Jupiter.
Oui, mais avec un diamètre, c'est pas un point, oui, effectivement.
D'accord.
Et puis, il découvre les anneaux de Saturne, mais entre guillemets. Ses lunettes ne sont pas d'assez bonne qualité pour voir l'anneau en tant que tel. Donc, il ne détecte pas vraiment ce que c'est. Mmh. Il voit des extensions autour de Saturne. On peut quand même dire qu'il est le premier à observer les anneaux de Saturne. Galilée.
Mais il va mal finir un peu, Galilée. Enfin, il va passer très près du bûcher.
Ben oui, parce que vous imaginez l'enthousiasme de Galilée. Ah, il en parle. Il en parle de partout. Ça se répand dans toute l'Italie, la lunette de Galilée.
C'est important de replacer aussi l'homme de Galilée au sein de la société italienne de l'époque. C'est que c'est un très bel homme, il faut le dire, qui a beaucoup de conquêtes, qui a ami avec plein de gens, y compris avec le pape.
Y compris avec le pape.
Donc, voilà.
Mm-hmm. Galilée a d'énormes relations, même au sein de l'Église. Et ce qui va expliquer que l'Église va mettre énormément de temps à réagir. Ça va ne faire que l'encourager à continuer. Mmh. Pour Galilée, bien entendu, il ne fallait pas brûler Giordano Bruno. Il avait raison de défendre Copernic. C'est une évidence. Alors effectivement, on lui conseille quand même la prudence, hein, tellement il en parle autour de lui, ça se répand de partout. Et ses premiers ennuis finissent par arriver. On lui prie de présenter ses thèses comme des hypothèses de travail, mais qui ne reflètent pas du tout la vérité, encore une fois. Mais on ne peut pas faire taire Galilée, impossible, il continue, et finalement en 1616, il est convoqué une première fois par le très célèbre, malheureusement, tribunal du Saint-Office, hein, c'est le tribunal de l'Inquisition, une première fois, en 1616. Donc on lui demande d'arrêter immédiatement de répandre ses thèses. Il repart libre, mais non, on ne fait pas taire Galilée.
les historiens disent qu'en plus il était... il aimait la provoque, quoi.
Oui, c'était son truc. Absolument. Mais en fait, Galilée, il se croit à l'abri. Il y a tellement de relations, y compris au sein de l'Église, il se croit totalement à l'abri. Et on peut dire maintenant que c'est là sa grave erreur. Donc, il est en 1632 finalement convoqué une deuxième fois par le tribunal du Saint-Office. Il est interrogé pendant des mois, il est menacé de torture. Même ses relations ne peuvent rien y faire, ne peuvent plus rien y faire. Et finalement, sous la pression, sous le harcèlement, il est obligé de céder. Galilée cède. Et devant le tribunal, il doit rejeter ses thèses et ses idées, à voix haute. Il adjure ses idées. On est en 1632.
Il y a une fameuse histoire qu'on nous dit à l'école qu'il aurait dit à voix basse et pourtant elle tourne.
Alors d'après les...
Mais ça paraît impossible.
D'après les historiens, si cette phrase avait été prononcée et par conséquent entendue, ça l'aurait conduit au bûcher. Ça l'aurait conduit au bûcher. Ouais, ça semble être une légende. Mmh. Et pourtant, elle tourne.
Mais c'est bon à retenir. Eh bien, amis auditeurs et auditrices...
Tu te dis, mais attends,
c'est 23
il s'est
heures.
Passé un truc quand même entre Galilée et nous. Ce sera dans un deuxième épisode.
Voilà, un dernier petit mot sur Galilée.
Vas-y.
Parce qu'il est... Après cela, il n'est pas enfermé, mais il est placé en résidence surveillée. Ça, ce sont ses relations. Ses relations qui l'ont sauvé du cachot... Donc il est à Rome, puis à Florence, en résidence surveillée. À Florence, où il meurt en 1642. Pas tout à fait libre, mais pas au cachot. Et l'ironie, il a 77 ans quand il meurt, c'est qu'à la fin de sa vie, Galilée, qui fut le premier à voir à l'œil dans une lunette, à mettre l'œil à une lunette, est mort totalement aveugle à la fin de sa vie.
C'est Dieu, ça.
Non, pardon.
C'était...
Alors, pour la prochaine émission, une autre ironie, toujours du sort, hein, toujours pour Galilée. 1642, quand meurt Galilée, naît Isaac Newton, qui est l'un des plus grands génies de l'histoire des sciences.
Mais ça, donc c'est là qu'on allait en dire au départ.
C'est ça.
Vous aurez ça dans la prochaine émission astronomique de la causerie qui sera courant décembre. On vous tiendra informé, ne vous inquiétez pas. Et d'ici là, vous pourrez réécouter cette émission sur les blogs de la radio, de l'émission surtout, sur blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et voilà, comme ça, vous serez bien à jour pour démarrer la deuxième partie du voyage.
C'est ça. Ben, on va déjà remercier Georges de partager tes connaissances.
Comme d'habitude, j'ai envie de dire.
Mais c'était vraiment bien.
Et puis ben nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Alors, on n'a pas fait d'agenda parce que vous voyez bien que c'est une émission très chargée et que voilà, vous savez où trouver des informations.
Bah, vous pouvez aller faire un tour sur Rebellion, sur le site de la Griffe, sur le site des différents MJC, sur le site du cinéma Le Zola. C'est un peu là où on va à chaque fois pour vous dégoter des trucs. Bah, là, vous allez aller les dégoter tout seul et puis c'est tout.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Et ben on va se quitter avec un titre, Clara. Tu peux peut-être le rappeler ?
Oui, enfin le dire.
Enfin le oui, pardon. Excuse-moi.
Il faut être précis ce soir.
Il faut être précis. Donc on se quitte avec David Bowie et le titre Moss Garden.
Yes. Et ben en attendant la semaine prochaine, on vous fait des bisous. On vous souhaite la belle nuit.
Oui, bonsoir à tous.
Et encore merci Georges. Et bonne semaine à toutes et tous.
Yes. Ciao.
Ciao.